Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Ils ont réussi à faire plier le régime chinois. Après 3 mois de manifestations à Hong Kong, le projet de loi à l'origine des premiers défilés est retiré. Valérie Crova nous raconte dans un instant. À Londres, la bataille continue entre Boris Johnson et les députés rebelles. Le Premier ministre très affaibli depuis hier. C'est le chaos à Londres, nous dira le journaliste britannique John Henley. Le risque d'un Brexit dur a augmenté, selon la Commission européenne ce matin. Quelle méthode pour les réformes? Séminaire de rentrée du gouvernement, la phase de concertation commence pour la réforme des retraites. La droite s'impatiente, il y a beaucoup de flou, selon Gérard Larcher.
On repart pour un nouveau cycle dont personne ne connaît la durée. En fait, les Français sont un peu perdus entre 62 ans... H pivot.
Le président du Sénat, nous l'entendrons plus longuement tout à l'heure, une réforme délicate en partie abandonnée, les 120 000 suppressions de postes chez les fonctionnaires, mais Bercy fait un gros effort, 6 000 suppressions de postes d'ici à la fin du quinquennat. Delphine Simon nous donnera les détails. Une piste d'économie, mieux lutter contre les fraudes aux prestations sociales. 450 milliards d'euros de prestations sociales chaque année. Quel est le montant de la fraude? Deux parlementaires donnent des éléments de réponse assez saisissants. L'une des deux est notre invitée. Dans l'actualité, c'était encore la mort du photographe Peter Lindbergh, le gendarme qui refuse de raccompagner chez elle une femme battue, la suite de l'histoire avec Ariane Grissel, Jean-Luc Mélenchon, superstar dans une université de Buenos Aires, et le conseil cinéma d'Eva Bétan. Et puis à 13h30, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel est le menu aujourd'hui?
Remballez votre eau de Javel, nos produits ménagers regorgent de substances nocives. 60 millions de consommateurs viennent publier un dossier pour nous permettre de faire du ménage dans nos placards. J'attends vos questions dès maintenant au standard.
01 45 24 7000, le mot-clé sur les réseaux sociaux, c'est l'attaque. À tout à l'heure, Mathieu, le début d'après-midi sur France Inter, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Et donc, Hong Kong, pour ouvrir ce journal et cette victoire majeure des manifestants pro-démocratie. Le texte à l'origine des premiers défilés en juin est retiré. Il autorisait les extraditions de Hong Kong vers le continent, autrement dit, la liberté dont jouissent les habitants de la région par rapport aux autres Chinois était menacée. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
Texte retiré, alors ça ne veut pas dire que les manifestations vont cesser, ni que les menaces de répression disparaissent, mais c'est un tournant, Valérie.
Oui, c'est en tout cas une concession importante faite par la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, devenue la véritable bête noire des manifestants. Le texte avait été suspendu, mais les milliers de Hongkongais qui sont descendus régulièrement dans les rues depuis le mois de juin trouvaient ce terme ambigu. Ils réclamaient son retrait pur et simple. La chef de l'exécutif a finalement accédé à leur demande. Pour apaiser les inquiétudes de la population, a-t-elle expliqué, ou plutôt Pékin, devrait-on dire, puisque Carrie Lam n'a aucune marge de manœuvre étant désignée par le pouvoir central chinois. Pékin, qui lui a d'ailleurs réitéré son soutien hier. C'est là une autre revendication importante des militants pro-démocratie, que leur chef du gouvernement soit élu au suffrage universel, mais on imagine difficilement la Chine accepter d'abandonner son leadership sur l'ancienne colonie britannique. Le retrait du projet de loi controversé est certes une victoire pour les manifestants, mais ils n'entendent pas abandonner leur combat pour davantage de démocratie, trop peu, trop tard, a commenté sur sa page Facebook Joshua Wong, l'une des figures de la contestation actuelle qui avait été arrêtée il y a quelques jours.
Hong Kong, lieu de bataille pour la démocratie en ce moment, c'est aussi une place financière importante et après les informations de ce matin, l'indice de la bourse de Hong Kong a clôturé en hausse de près de 4%. En Grande-Bretagne, à Londres, le bras de fer entre Boris Johnson et le Parlement continue. Aujourd'hui, le vote sur la loi qui empêcherait une sortie sans accord de l'Union européenne. Hier, les parlementaires ont en partie repris le contrôle du calendrier parlementaire. Boris Johnson voulait les prendre de court et imposer son Brexit dur au 31 octobre. C'est en partie perdu. Une partie même des députés conservateurs se sont élevés contre lui. Écoutez, sur le climat politique en Grande-Bretagne, en ces jours précis, John Henley, le correspondant Europe à Paris du quotidien britannique The Guardian.
C'est un chaos indescriptible, c'est vrai. C'était à la fois prévisible et vraiment impossible de voir maintenant la sortie. On voit très 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 difficilement comment Boris Johnson pourrait s'en sortir. Il a été vraiment pris dans sa propre piège en fait, puisque sa décision de suspendre le Parlement pendant 5 semaines a tellement énervé les députés que pour la première fois depuis des mois et des mois, l'opposition l'opposition et les rebelles donc, dans son propre parti ont parlé d'une seule voix. Ils ont tellement plus confiance dans le Premier ministre qu'ils n'accorderont pas sa volonté de déclencher des élections par peur que Johnson repoussera la date des élections jusqu'à après le 31 octobre, la date de sortie.
La réaction de la Commission européenne après les derniers événements à Londres, le filet de sécurité irlandais d'abord est la seule solution, pas question de négocier là-dessus, et le risque d'une sortie de la Grande-Bretagne sans accord a augmenté, autrement dit le risque d'un Brexit dur. L'actualité internationale à la mi-journée, c'est aussi la mort d'un photographe mondialement célèbre. Les années Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, les mannequins superstars des années 90, c'est en partie lui. Le photographe allemand Peter Lindbergh vient de mourir, il avait 75 ans. Ces photos noir et blanc, parfois sur fond de paysages industriels, ont fait les belles heures des grands magazines de mode. Il était il y a 5 ans, 2014, l'invité d'Augustin Trapenard dans Boomerang.
Je suis parti à Los Angeles, et c'était déjà Linda Evangelista, Christy Turlington, Tatiana était là. Et j'ai photographié ça avec les chemises blanques, toutes naturelles sur la plage. Je suis venu à New York avec ces photos. Et tout le monde était choqué, ils savaient pas quoi faire avec. Je dis, mais c'est quoi? On va faire quoi avec ça? Je dis, mais ça, c'est les femmes que j'aime. Et 8 mois plus tard, c'est Anna Wintour qui est venue au Vogue américain, elle a vu les photos qui étaient dans la plus belle, non? Et qu'elle a dit, mon Dieu, je t'ai donné la couverture et 20 pages avec ça. Moi, je trouve aujourd'hui, avec la retouche, ça dévalorisait les femmes. Je trouve l'image de femmes aujourd'hui dans le journal de mode, ils sont trop retouchées, ils sont trop plastiques, ils sont, toute la perfection, c'est un truc que j'aime pas du tout.
Alors, le mois dernier encore, Peter Lindbergh participait au numéro du Vogue Royaume-Uni. Il photographiait l'actrice Salma Hayek, la jeune militante écolo Greta Thunberg ou la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. Sur son travail, écoutez les mots du spécialiste de photos de mode, directeur artistique de magazine Marc Ascoli.
Il y avait un côté extrêmement positif dans sa personnalité. Toutes les personnalités qui travaillaient autour de lui sentaient une espèce d'énergie extrêmement solaire. Tout d'un coup, ces filles extrêmement belles devenaient non seulement belles, mais intéressantes. Parce qu'il savait justement reconnaître dans ses personnalités le côté profond, le regard. Ce n'était jamais des objets. Il arrivait à avoir aussi l'ingrédient du côté attractif des beaux vêtements. On avait l'impression que tout ça était extrêmement élevé, cultivé. Il y avait de l'allure, en fait. Il y a une allure, Peter Lindbergh.
Il avait de l'allure, propos recueillis par Jacqueline Petros et l'entretien entre Peter Lindbergh Augustin Trapenard, vous pouvez le retrouver sur franceinter.fr ainsi que une autre émission sur France Inter, Laure Adler, l'année dernière, l'heure bleue, il en était l'invité. Le gouvernement va-t-il enterrer les réformes sensibles 2 ans après l'élection d'Emmanuel Macron? Conseil des ministres et séminaire de rentrée du gouvernement ce matin. Et un certain flou entoure l'une des réformes les plus délicates des mois à venir, la réforme des retraites. Une phase de consultation s'ouvre, les syndicats reçus demain et après-demain. La consultation durera quelques mois, pas un an, hein, promet la ministre de tutelle sur ce dossier Agnès Buzyn. Mais ils sont maintenant 2 au gouvernement pour s'occuper des retraites. Le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye participe à son premier conseil des ministres. Il proposait l'âge de 64 ans, un âge pivot pour toucher une retraite à taux plein. Emmanuel Macron plaide plutôt pour jouer sur la durée de cotisation. Une synthèse est possible, dit le haut-commissaire. Alors on dira que c'est normal que tout ne soit pas tranché puisque la consultation commence, mais la droite a trouvé son angle d'attaque, le flou, l'hésitation. Écoutez le président du Sénat, Gérard Larcher, qui faisait sa rentrée ce matin.
Premier chantier, la réforme des retraites, tant mieux. Mais plus d'un an de dialogue par Jean-Paul Delevoye n'ont pas encore suffi. On repart pour un nouveau cycle dont personne ne connaît la durée. Peut-être après les municipales. Ça, ce serait mauvais esprit. Peut-être au-delà, ce que je commence à croire. En fait, les Français sont un peu perdus entre 62 ans, âge pivot, durée de cotisation. En fait, la question de l'âge, elle est incontournable.
Le matou-matou à président du Sénat, Gérard Larcher, ce matin. Alors, nouvelle méthode ou adoucissement des réformes délicates dans les mois à venir. Ben, ça se joue en partie ce matin. Bonjour Cyril Gradiani.
Bonjour.
En direct de l'Élysée avec Jérémy Thuil. C'est la vraie rentrée au fond du gouvernement ce matin, Cyril. Conseil des ministres et séminaire de travail.
Et un séminaire qui va démarrer dans les prochaines minutes autour d'un déjeuner entre ministres. Une fois que le Conseil des ministres sera achevé, le sujet inflammable des retraites doit faire l'objet d'un focus, tout comme l'écologie qui est érigée en priorité de la rentrée et aussi la sécurité du quotidien. Comme à chaque séminaire, chaque ministre aura face à lui sur la table une frise chronologique pour détailler l'agenda des projets de loi en examen au Parlement. Il y a le statut de l'élu, la loi anti-gaspillage, la révision des lois bioéthiques avec notamment l'autorisation de la PMA pour toutes. Enfin, les municipales de mars 2020 devrait, selon un ministre, aussi s'inviter en fin de réunion. D'abord, la présentation très formelle du décret portant convocation des électeurs. Nous connaîtrons les dimanches des élections. Surtout, seront édictées des règles pour les membres du gouvernement qui souhaiteront figurer sur des listes, en tête ou pas. Est-ce qu'un ministre candidat dans une petite ville pourra rester ou placer le curseur du nombre d'habitants ? Une bonne dizaine de ministres va être concernée.
Merci Cyril Graziani. Alors, est-ce qu'au nom de l'écoute, de l'apaisement après la crise des Gilets jaunes, est-ce qu'au nom de cette nouvelle méthode, des réformes délicates vont être enterrées ? Les suppressions de postes dans la fonction publique, par exemple. Alors, la promesse initiale, c'était 120 000 suppressions de postes entre l'État et les collectivités locales. On pensait que c'était enterré. Depuis une conférence de presse d'Emmanuel Macron, souvenez-vous, en avril dernier.
J'assume totalement, si ce n'est pas tenable, d'abandonner cet objectif. On ne peut pas poursuivre à la fois, surtout quand on doit réinvestir dans la sécurité, dans l'éducation, dans la justice. Je ne vais pas donner là aussi des injonctions contradictoires au gouvernement. Il y a trop de monde à Paris et il n'y a plus assez de monde sur le terrain à régler les problèmes concrets de nos concitoyens, de nos entreprises, de nos associations. Et donc je veux qu'on remette plus de fonctionnaires sur le terrain qui apportent des solutions et qu'on supprime plus de postes en administration centrale.
Voilà, deux extraits différents de la conférence de presse du mois d'avril d'Emmanuel Macron. L'objectif 120 000 est bel et bien oublié. Celui de réduire le nombre de fonctionnaires à Paris demeure. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Des bureaux vont se vider à Bercy. 5 800 suppressions de postes d'ici à la fin du quinquennat.
Oui, 10 000 postes au total sur l'ensemble du quinquennat. 10 000 postes en moins. C'est vrai que Bercy assumera les deux tiers de l'effort prévu pour les fonctionnaires d'État. Bercy, le dernier bastion de la réforme. Au cabinet du ministre, on apprécie la formule, tout en réfutant toute politique du rabot. Mais il faut financer les priorités l'an prochain, dit-on, recruter des professeurs, des policiers. La fin de la taxe d'habitation pourrait libérer des postes. Quant au prélèvement à la source, cette révolution copernicienne, elle allège la taxe des agents du fisc, comme bientôt d'ailleurs la déclaration de revenus pré-remplie pour 12 millions de contribuables. Du côté des syndicats, on dément toute simplification. Selon Solidaires Finances, si on compare d'un an sur l'autre dans les accueils des trésoreries, le volume de sollicitations en cette période d'avis d'impôt est le même. Pas d'allègement donc. Vu la perspective du Brexit, les douanes pourraient être épargnées. C'est donc la DGFiP, le gros bataillon de Bercy, qui assumera le gros de l'effort avec 4 800 postes en moins sur 3 ans, 1 500 l'an prochain, 1 millier l'année d'après et 1 500 encore en 2022. En 15 ans, un tiers de l'effectif de la DGFiP aura disparu, constatent les syndicats. Alors que Bercy recrute, 1000 postes viennent d'être mis au concours d'inspecteurs. Un recrutement énorme et paradoxal, constate la CGT.
Alors, comment faire des économies ? Comment éviter des dépenses ? Et si le versement des prestations sociales était mieux encadré ? Deux parlementaires achèvent une mission sur le coût de la fraude sociale. 450 milliards de prestations sociales sont versées chaque année. On estime que la fraude représente 3 à 10% de ce montant. Bonjour Nathalie Goulet.
Oui, bonjour.
Sénatrice UDI, avec la députée En Marche Carole Grandjean, vous avez mené cette mission sur la fraude sociale. Un élément de définition, qu'est-ce que c'est que la fraude sociale, Madame Goulet ?
C'est la fraude aux prestations. Ce sont des gens qui bénéficient de prestations auxquelles ils n'ont pas droit. Ils trichent sur l'identité, trichent sur le logement, trichent sur la résidence, trichent sur les revenus et bénéficient d'un système français qui est extrêmement généreux.
Alors, voilà. On reparlera de l'évaluation précise du montant, mais en enquêtant, vous avez trouvé quelques perles tout de même. Il y aurait en France 3 millions de centenaires, hein, si on en croit les déclarations.
Oui, l'INSEE.
Voilà.
L'INSEE, oui.
Vous êtes tombé sur un père de famille, je crois, qui a déclaré 70 enfants.
Il n'était pas père de famille, mais il a reconnu 70 enfants, donc il l'est devenu, si vous voulez.
Et un médecin qui a facturé 40 déplacements le même jour à la Sécurité sociale dans une maison de retraite.
Ça arrive tout le temps. La perle, c'était celui à Reims qui a consulté en ski. Ça, c'était plus original. Mais d'abord, on n'a pas fini nos auditions avec Carole Grandjean. D'ailleurs, vous me prenez au saut, puisque je suis à Bruxelles, oui, en train d'examiner la façon dont fonctionne la banque Carrefour de Sécurité sociale à Bruxelles, où sont mieux coordonnées les données. Donc oui, évidemment, il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas.
Mais alors, on peut en sourire de ces perles, mais il n'y a pas de contrôle.
Alors, il y a peu de contrôle. La Cour des comptes, chaque année, met des réserves et des préconisations, mais dans l'indifférence générale et en tous les cas dans l'indifférence des principaux responsables. Et puis, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre système a été créé dans une période où il n'y avait pas cette mobilité géographique ni cette mobilité professionnelle. Et donc, la mondialisation aidant et nos systèmes ayant beaucoup évolué, vous avez aujourd'hui un système très lourd avec des procédures qui sont plus du tout adaptées et des contrôles qui sont tout à fait carencés.
Pourquoi ne connaît-on pas le montant précis de la fraude, Madame Goulet ?
Alors, on n'a pas voulu faire d'évaluation pour l'instant. On s'est contenté, depuis 2 mois et demi, avec 90 auditions, d'essayer de faire le constat le plus précis possible. Parce que il y a eu, au mois de décembre, l'année dernière, etc., il y a eu pas mal de polémiques. Et puis, on a lutté contre une partie d'élus et de professionnels qui nient l'existence de la fraude sociale. Donc, je voulais absolument remercier le gouvernement d'avoir touché à ce tabou et de nous avoir désigné Carole Grandjean et moi pour cette mission, parce que c'est la fin d'un tabou. Et je pense qu'on pourra, dans un délai très raisonnable, faire bouger les lignes.
Mais enfin, il y a des milliards à récupérer. On parle bien de milliards d'euros à récupérer.
Absolument. Hein. Mais la Cour des comptes, l'université de Portsmouth a fait des études et la Cour des comptes considère que la fraude est entre 3 et 10%. Ça, c'est une évidence. Et donc, si vous voulez, il faut arrêter. C'est pas fromage ou dessert avec la fraude fiscale. C'est deux ruptures de nos règles d'égalité sociale.
C'est ça. On a réussi à mettre une culture du contrôle au plan fiscal. Voilà. Ça peut se faire au plan social.
Ça doit se faire au plan social, parce que si vous voulez, nos infirmières en ont besoin, nos urgences en ont besoin, et vous savez que c'est pas une fraude de pauvres. Parce que les gens qui en ont vraiment besoin, en général, sont d'une dignité. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de recours. Il y a un nombre très important de Français qui n'ont pas recours aux droits auxquels ils auraient droit, parce qu'ils ne demandent même pas. Donc, si vous voulez, c'est un sujet majeur.
Quand vous dites que ce n'est pas une fraude de pauvres, c'est aussi, par exemple, des professionnels de santé qui fraudent et qui truquent des déclarations, par exemple.
Voilà, la Cour des comptes estime qu'en matière d'assurance maladie et d'indemnité journalière, la fraude du secteur médico-social, c'est 80% du montant de la fraude et 30% des fraudeurs. C'est les chiffres de la Cour des comptes.
Une proposition, une piste pour lutter contre la fraude sociale, ce serait que la carte vitale ne soit plus décernée à vie, mais qu'on la renouvelle régulièrement, c'est ça ?
Oui, je pense que l'une des meilleures solutions, ce serait, compte tenu de la lourdeur du système, c'est probablement une carte dématérialisée qu'on pourrait désactiver. En cas de suspicion de fraude, par exemple, ou de changement de résidence, ou de changement d'état, chaque fois qu'il y aurait on pourrait désactiver la carte, ce qui serait un bon moyen pour qu'elle soit plus utile.
Et comment vérifie-t-on les déclarations, les identités ? Est-ce qu'il y a des systèmes qui permettraient qu'il n'y ait plus de médecins ASCII ou de médecins à multiples déplacements ou autre fraude ?
Il y aura toujours.
Il y aura toujours, d'accord.
Mais je pense qu'il faut déjà régler tous les problèmes de fraude documentaire. Je pense qu'il faut aussi, alors vous avez parlé des postes supprimés, mais je pense qu'il faut plus de contrôle. Il faut rétablir le contrôle physique, parce que quand tout se fait par Internet, évidemment, la dématérialisation, ça crée la fraude qui va bien avec.
Oui.
Et peut-être avoir recours dans un premier temps à des réservistes, pourquoi pas. Enfin, on a plein de solutions et puis on a beaucoup de pistes qui viennent aussi de nos voisins européens. Mm-hmm. Donc je pense qu'on est vraiment avec Carole Grandjean sur une ligne extrêmement volontaire et je pense qu'on va faire bouger les lignes.
Merci Nathalie Goulet, sénatrice UDI, d'avoir répondu à nos questions. Le rapport, c'est à la fin du mois, hein, c'est ça, fin septembre.
Ce sera à la fin du mois avec un chiffrage.
Merci beaucoup. La politique, c'est encore la tournée sud-américaine de Jean-Luc Mélenchon. Il a été fait docteur honoris causa d'une université de Buenos Aires. Reportage de Caroline Vic pour France Inter et sur ces échanges très politiques, forcément, entre Mélenchon et des étudiants argentins conquis.
Le public était debout et enthousiaste après la conférence de Jean-Luc Mélenchon en espagnol. C'est le cas de Dario, 21 ans, étudiant en économie politique.
Écouter quelqu'un qui lutte et qui est engagé depuis si longtemps est une bonne chose pour nous qui sommes étudiants et qui nous formons comme citoyens. Pour nous, c'est une fierté.
L'auditoire s'est identifié à l'idée de l'insoumission des peuples à un moment où deux Argentins sur trois rejettent leur président, notamment à cause de ces politiques de surendettement qui ont provoqué la crise. Jean-Luc Mélenchon.
Cette fois-ci éclate aux yeux de tous la responsabilité particulière du Fonds monétaire international, dont 61% des engagements sont argentins, ce qui est une proportion absolument illégale pour le Fonds. La personne qui a autorisé ça, c'est Madame Lagarde. Avoir comme présidente de la Banque Centrale Européenne quelqu'un qui a accordé des crédits sans garantie et sans vote d'un Parlement va quand même poser quelques problèmes éthiques et politiques en Europe, et à nous Français en particulier.
Le discours de Mélenchon sur les dommages causés par le néolibéralisme a donc particulièrement touché les Argentins, faisant face à une dévaluation de 30% et une inflation annuelle de 50%. Tout cela dû à une fuite massive de capitaux alimentée largement par ce prêt du FMI de 57 milliards de dollars. À Buenos Aires, Caroline Vic pour France Inter.
Autre rendez-vous maintenant en Amérique du Sud pour Jean-Luc Mélenchon, la rencontre avec Lula qui est toujours emprisonné. Les flèches de Mélenchon contre la présidente nommée de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. Premier discours public ce matin devant le Parlement européen. Et cette phrase importante, une politique monétaire très accommodante pour une période prolongée est nécessaire de la part de la Banque Centrale Européenne, dit Madame Lagarde. Pas de remontée des taux d'intérêt. Donc, nous parlions tout à l'heure du Brexit et de l'ambiance en Grande-Bretagne. Cette dernière minute que nous donne l'agence France Presse, Boris Johnson, le Premier ministre, propose en Grande-Bretagne des élections anticipées le 15 octobre.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Vous ne le savez peut-être pas et vos enfants non plus, mais à partir du 1er novembre, les cantines scolaires auront l'obligation de proposer au moins une fois par semaine un menu végétarien. La date approche, moins de 2 mois. Les villes sont-elles prêtes? Non. C'est en tout cas la crainte de Greenpeace, très attachée à cette réforme et qui fait une piqûre de rappel aujourd'hui. Écoutez Laure Ducos, elle est chargée de campagne agriculture et alimentation chez Greenpeace.
Dans 2 mois, il y a la date limite d'application de la loi en ce qui concerne une expérimentation sur les menus végétariens à l'école. Or, nous nous sommes rendus compte sur le terrain qu'il y avait énormément de maires qui n'étaient soit pas au courant, soit tout simplement qui pensaient que cette loi n'était pas obligatoire. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait même des grandes villes, par exemple Nancy au départ, qui pensaient que ce n'était pas obligatoire. Nancy, par contre, aujourd'hui, ils ont avancé. Hein, ils sont en train de revoir leur politique pour justement aller plus loin que ce que dit la loi. Mais quand on se rend compte que même des grandes villes qui ont des moyens, donc des services conséquents, ne sont pas sûrs que c'est obligatoire ou pensent que ça ne l'est pas, là, on s'est dit qu'il y avait vraiment urgence à rappeler cette information. Du point de vue de la loi, il n'y a aucune contrainte, parce qu'il n'y aura pas de sanctions légales. En revanche, avec Greenpeace, nous prévoyons d'ores et déjà de mener des actions judiciaires sur certains cas, sur certaines villes qui auraient les moyens vraiment de mettre en place et qui ne le feraient pas.
Propos recueillis par Lisa Guyenne. Elle est très malvenue à tout point l'intervention du gendarme. Hier, Emmanuel Macron visitait le centre d'appel 39-19 réservé aux femmes victimes de violences conjugales. Au bout du fil, une femme de 57 ans, elle raconte que la gendarmerie refuse de la raccompagner chez elle pour récupérer des affaires alors qu'elle vient de déposer plainte contre son mari violent. Ce n'est pas dans le code pénal, il faut une décision d'huissier, lui dit le gendarme. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Gros malaise en pleine mobilisation contre les féminicides. Alors cela dit Ariane, peut-être faut-il changer le droit. Est-ce que d'un point de vue strictement juridique, les arguments du gendarme sont recevables?
Eh bien sur le papier, oui, même si en droit, tout dépend évidemment de chaque cas. C'est ce que va tenter d'éclaircir l'enquête administrative menée par l'inspection générale. Ce que dit la loi, si le logement appartient au conjoint de cette femme, les gendarmes n'ont effectivement pas le droit d'y entrer. Ce serait une violation de domicile, sauf s'ils entendent par exemple des cris ou constatent des coups. Là, c'est ce qu'on appelle un état de nécessité à ce moment. Et seulement là, s'ils se trouvent à l'extérieur, eh bien, ils ont le droit d'intervenir. Donc ici, on parle vraiment de raccompagner cette femme chez elle, hein, dans son domicile. On peut dire que ce gendarme semble avoir un peu joué sur les mots, puisqu'il aurait en revanche été possible d'envoyer une patrouille, d'accompagner la dame jusque sur le pas de sa porte, de rester aux aguets. Il y a donc la loi et il y a ses interprétations. La direction générale de la gendarmerie le disait dès hier soir, le contexte du cas évoqué doit être précisé. Mais, ajoute-t-elle, la prise en compte de cette victime en difficulté apparaît totalement défaillante.
À propos de l'homme accusé de féminicide à Cagnes-sur-Mer, on apprend ce matin qu'il avait déjà été visé par une plainte pour violence déposée par une ex-petite amie il y a 3 ans. La plainte avait été classée sans suite, faute de pouvoir être étayée. Précision de la procureure de Grasse ce matin. À propos du Grenelle contre les violences conjugales, la secrétaire d'État Marlène Schiappa a été hier soir l'invitée du Téléphone Sonne. Vous pouvez réécouter le Téléphone Sonne sur France Inter.fr. Et nous en venons à notre rendez-vous du mercredi. Bonjour Eva Bettan.
Bonjour.
Votre conseil cinéma, vous allez nous conseiller le film de Kelly Richard. Écoutons ce qu'en dit la grande Catherine Deneuve de cette réalisatrice américaine.
Ah, Kelly Richard, si elle vient tourner en Europe, moi je tourne avec elle demain.
Voilà, Catherine Deneuve, c'était à la Mostra au micro de Corinne Pellissier. Elle va bientôt présider le jury du festival du film américain de Deauville, donc c'est un signe.
Deneuve, par Kelly Richard.
Oui, Deneuve, absolument. Alors le film de Kelly Richard s'appelle River of Grass. Pourquoi faut-il aller le voir?
D'abord, il faut dire que c'est son premier film. Oui. C'est un inédit réalisé depuis 25 ans parce que c'est une réalisatrice du cinéma indépendant formidable. Je vous conseille, si vous pouvez voir, par exemple, les films récents Night Move ou Certaines Femmes. Ce film-là, écoutez...
Donc c'est son premier film qui ressort.
C'est son premier film formidable. Voilà. Et quand vous le voyez, vous vous dites, mais c'est le film le plus insolent de cette rentrée et il a 25 ans. C'est l'Amérique des trous perdus, de l'ennui, des vies étouffées. Au début, quand le film commence, vous ne savez pas où il vous mène. Il a l'air d'avancer par des coups de tête, comme ce coup de tête d'une mère de famille qui a l'air d'être harassée par ses enfants. Elle les laisse, elle va au bar. Ah, transgression. Et il y a un objet, oui. C'est un classique du cinéma, un objet qui fait avancer l'histoire, un MacGuffin, comme disait Hitchcock. Écoutez la définition qu'il en fait.
It's always called the thing that the characters on the screen worry about, but the audience don't care.
Traduction.
C'est-à-dire que c'est un objet, les personnages, c'est très important pour les personnages, le spectateur s'en fiche complètement. Et là, l'objet, c'est un pistolet. Okay. Un pistolet trouvé, mais il est plus sexy que des êtres humains, quand on s'ennuie à ce point. Et vous allez avoir une sorte de road movie avec un attelage bancal, entre un chômeur et cette mère de famille en fuite, en quelque sorte. Et vous allez voir comment elle transforme le duo criminel. C'est des vrais anti-héros, c'est pas de la rébellion en pot toutou, en quelque sorte. Le sujet, c'est comment on s'arrache à une vie sans intérêt? Eh bien, s'il faut aller très loin, on ira très loin.
Eh ben, on ira
et sans remords.
On ira très loin au cinéma avec vous, Eva Bettan. River of Grass, cette semaine sur les écrans. Sort également Les Hirondelles de Kaboul. On en avait parlé avec Corinne Pellissier il y a quelques jours. C'est un dessin animé, Zabou Bretman et Eléa Gobé-Mévelec. Si je t'écris ce soir de Vienne?
D'accord.
Barbara.
Je sais pas qui.
Vienne.
D'accord.
Non, ça vous dit rien. La chanson de Barbara.
Ah oui,
c'est pas
sûr.
Grave. J'ai pris un four avec Eva Bettan. Eh ben, Vienne, en tête du classement des villes les plus agréables à vivre, selon The Economist, c'est la deuxième année que c'est le cas. Qu'est-ce qui fait le charme de Vienne? Réponse Isorias.
Vienne compte 1 900 000 habitants, mais la densité de population y est faible, comparée à Paris intramuros par exemple, où elle est près de 5 fois plus importante. Cela influe directement sur la qualité de vie des Viennois, car ils ont plus d'espace et plus de services à leur disposition, selon Elena.
Moi, je prends toujours les transports en commun. Il existe un abonnement qui coûte 1 euro par jour. Les transports en commun fonctionnent très bien ici. Ils sont vraiment accessibles. Le logement aussi est bon marché à Vienne, car il y a beaucoup de logements à loyer modéré.
Dans une Autriche très soucieuse du respect de l'environnement, Vienne fait même figure de modèle avec ses nombreux espaces verts qu'apprécie Marie-Louise.
Il y a des vignobles ici où on peut se balader, on peut s'y rendre en transport en commun en à peine 20 minutes. Il y a aussi l'île du Danube, 20 km de terre, d'espace sans voiture, ce qui est assez unique pour une ville.
L'offre culturelle de la ville impériale, abondante et accessible, est un autre atout majeur aux yeux des habitants comme Niklas.
Il y a tant de monuments à visiter et beaucoup d'activités à faire pour les jeunes ou les plus vieux. Il y a de nombreux cinémas et théâtres avec notamment des offres pour les étudiants.
Selon un sondage réalisé par Eurostat, 96% des Viennois se disent satisfaits de leur ville. Vienne Isorias, France Inter.
Et sur le podium à côté de Vienne, Melbourne et Sydney.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R la mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Sébastien Léas.
Soleil et belle douceur s'imposent sur la majeure partie du pays cet après-midi avec des températures estivales. Les maximales grimpent entre 25 et 30 degrés, en général avec jusqu'à 34 degrés autour de la Méditerranée. Sous des développements nuageux, quelques averses peuvent tout de même se produire sur les Alpes du Sud et le relief de la Corse. En revanche, le nord-ouest est concerné par le passage d'une perturbation et de l'air plus frais avec des températures variant entre 18 et 25 degrés. Cette perturbation se décale cet après-midi entre les pays de la Loire, l'Île-de-France et le nord, apportant juste quelques pluies sur son passage, essentiellement au nord de la Seine. La couche nuageuse a en plus tendance à se morceler. Des éclaircies reviennent à l'arrière de la bande nuageuse, gagnant la Bretagne, la Normandie et le Pas-de-Calais cet après-midi. À noter aussi un peu de vent sur le Bas-Languedoc et le Nord-Ouest.